Courage à tous, bientôt le week-end. Nous sommes le vendredi 26 avril, il est tout juste à 8h. 8h, c'est l'heure de faire un tour sur vos informations avec vous, Noémie Philippot. Des températures qui augmentent, et ça fait plaisir, de 15 à 18 degrés attendus. Et ce vent du nord qui s'est transformé en vent du sud, jusqu'à 50 km/h en rafale prévue pour la fin de journée. On y reviendra à la fin de ce journal. Deux adolescents sont soupçonnés d'être à l'origine de l'incendie de Montbonneau.
C'était il y a 10 jours, 8 commerces et une quinzaine de logements détruits, tous répartis d'une poubelle incendiée par ces deux adolescents de 14 et 15 ans. Ils ont été arrêtés hier et mis en examen pour destruction de biens, Véronique Pueyo.
Les deux incendiaires présumés ont expliqué aux magistrats avoir mis le feu à la poubelle sans penser qu'ils allaient provoquer un tel brasier et détruire 8 commerces et 17 appartements. 50 personnes se retrouvent au chômage technique à cause de leurs gestes. Des familles ont perdu tous leurs biens et leurs souvenirs dans l'incendie, mais personne n'a été tué ou blessé. À l'issue de sa garde à vue et de sa présentation au juge d'instruction, le duo a été mis en examen pour destruction de biens. Il risque 15 ans de réclusion criminelle. En attendant, les deux mineurs de 14 et 15 ans ont été placés sous contrôle judiciaire strict, avec une interdiction de sortir de chez eux entre 21h et 6h du matin, de se rendre à Montbonneau et de se fréquenter, avec l'obligation aussi d'aller en classe. Ils seront sous la surveillance étroite de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les précisions sur cette avancée dans l'enquête sont sur francebleu.fr. Sur les lieux de l'incendie, on continue de déblayer les gravats en vue d'une expertise des structures des différents bâtiments qui devrait avoir lieu d'ici le mois de mai. Le couvre-feu pour les mineurs, justement, Gérald Darmanin y est favorable. En déplacement dans l'Aveyron, le ministre de l'Intérieur a répondu aux questions de France 3 et a apporté aux maires qui prendront l'initiative de mettre en place un couvre-feu en cas de violence son soutien. Plusieurs maires, anciens soutiens de La République En Marche ou élus de droite, ont déjà décidé d'instaurer un couvre-feu pour les moins de 13 ans, Maxime Glorieux.
L'idée a été lancée par le ministre de l'Intérieur lui-même, avec un couvre-feu en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre pour les mineurs face à une montée de la violence. Idée reprise par le maire de Béziers, Robert Ménard, interdiction pour les moins de 13 ans de circuler seul la nuit. On suivit la commune de Pennes Mirabeau près de Marseille depuis hier soir et bientôt Nice, où le maire Christian Estrosi réactivera à partir du mois de mai un couvre-feu déjà en place avant la crise du Covid. Avec quelles sanctions? À Nice, un rappel à l'ordre. À Béziers, les parents pourront faire l'objet de poursuites pénales. Ce couvre-feu est un pansement sur une jambe de bois, réagit le président régional de l'Association des maires, qui réclame des mesures de fond en termes éducatifs et d'accompagnement social.
Gérald Darmanin rappelle que le tribunal administratif pourra être saisi pour vérifier, je cite, qu'il n'y ait pas d'excès de pouvoir. Vous retrouvez l'ensemble des déclarations du ministre de l'Intérieur sur le site de France Bleu.
On en sait plus aujourd'hui sur la blessure par balle de Kenji Girac.
Le chanteur a finalement expliqué aux enquêteurs qu'il a voulu simuler un suicide après une dispute avec sa compagne, un geste pour lui faire peur alors qu'elle l'aurait menacé de le quitter, selon le procureur de la République de Mont-de-Marsan. Kenji Girac avait d'abord expliqué qu'il s'était tiré dessus tout seul par accident. Il est donc revenu sur sa version des faits. Dans sa conférence de presse, le procureur de la République a aussi précisé que la star de The Voice avait 2,5 grammes d'alcool par litre de sang au moment du tir. Vous retrouvez l'ensemble de ces annonces sur francebleu.fr. Il n'y a jamais eu autant de signalements d'agressions chez France Travail, ex-Pôle emploi. C'est ce que montre un rapport interne révélé par le site Politis. Des agressions physiques et verbales, des incivilités, mais aussi beaucoup de déclarations d'intentions suicidaires des demandeurs d'emploi. Tous les indicateurs sont dans le rouge. En tout, près de 16 000 fiches de signalement ont été rédigées en 2023 dans les 900 agences du territoire, dont 143 pour des agressions physiques.
50 ans après, la communauté portugaise de Saint-Martin-d'Air célèbre la révolution des œillets.
Le coup d'État du 25 avril 1974 qui a renversé la dictature de Salazar. En mémoire, le maire de Saint-Martin-d'Air a inauguré une place baptisée Place de la Révolution des œillets dans le futur écoquartier Nerpic. Le maire David Queiroz, lui-même issu de cette histoire, son père a fui la dictature portugaise.
Je suis fils d'un Portugais du Nord et d'une Espagnole du Sud. C'est pas forcément des aspects qu'on évoque beaucoup dans la famille, mais bien sûr, il y a la dimension familiale, mais c'est aussi la rencontre avec des habitants et des militants qui m'ont fait ouvrir les yeux sur ce moment historique.
Et le paradoxe, c'est qu'au Portugal, ce sont les militaires qui rétablissent la démocratie. C'est rare, ça.
Alors, c'est une originalité. Puis moi, je vois aussi, c'est un peu comme la Première Guerre mondiale. Il y avait des mutineries. En fait, le régime fasciste était tellement incohérent et voire dans la bêtise qu'en fait, il envoyait au front des militaires en sachant qu'ils allaient perdre. Donc en fait, les militaires, ils ne souhaitaient pas perdre. Ils souhaitaient se recentrer sur leur pays, sur leur famille. Et cette révolution des œillets menée par les militaires, c'était aussi pour redonner le pouvoir au peuple. Et c'est en tout cas le symbole à retenir.
David Kairos au micro France Bleu Isère de Gérard Fourgeot. Cette place de la révolution des œillets sera inaugurée officiellement l'an prochain quand le chantier du centre Nerpic sera terminé.
Un choc se prépare au stade des Alpes.
Entre deux équipes du haut de tableau du championnat Pro D2 de rugby, Grenoble 4e contre Béziers 3e, un FCG impressionnant qui relève la tête malgré tous les soucis extrasportifs cette saison. Les Grenoblois ont la meilleure attaque du championnat. Il y aura du monde pour les supporter au stade ce soir, plus de 13 000 personnes. Alors le club vous recommande d'anticiper pour venir. Le coup d'envoi c'est à 19h et le match est aussi à vivre en direct sur France Bleu Isère. En judo, Cédric Revol monte sur la 3e marche du podium des championnats d'Europe. L'Isérois, formé à Berlin, a décroché la médaille de bronze en moins de 60 kilos à Zagreb. C'est sa première médaille continentale, mais malheureusement, ça ne changera rien pour lui dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris. La Fédération française lui a d'ores et déjà préféré un autre judoka. Et puis, on profite encore un peu de la neige aux Deux Alpes. C'est la dernière station encore ouverte en Isère, mais le bilan est déjà très positif, d'autant plus avec les chutes de neige des derniers jours en altitude. Les conditions météo sont idéales et offrent une fin de saison en apothéose, Nourane Mahmoudi.
Près des remontées mécaniques, lunettes noires sur le nez, Estelle chausse ses skis. Elle vient d'Orléans et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas venue pour rien.
Super neige, super beau temps, un peu frais, il faut se le dire. À vrai dire, semaine de vrai hiver au mois d'avril, parce qu'on est venu en février, il n'y avait pas de neige. C'est génial sur cette fin de saison.
Le manque de neige en février, Pascal, lui aussi, l'a subi. Il est moniteur de ski. Aux Deux Alpes, il profite de ses derniers jours de vacances et il ne peut que se réjouir.
Il fait très très froid, donc on a une neige assez exceptionnelle, une neige d'hiver qu'on n'a pas eue. Neige fraîche avec de la poudreuse encore, juste ce qu'il faut pour prendre des vacances en fin de saison.
Pour Lina, 7 ans, c'est aussi les vacances. Elle et son père ont fait le déplacement depuis Belfort. Et ils l'ont bien rentabilisé.
On a fait du snowpark, on est monté au Gendry, on a fait plein de choses.
Et Pierre, son papa, le dit, les conditions sont idéales.
Et on profite du beau temps, du soleil et du fait qu'il n'y ait personne sur les pistes.
Alors pas d'embouteillage sur les pistes cette semaine, c'est vrai, mais ça n'empêche pas un bilan très positif pour cette saison. 1 800 000 nuitées réservées, c'est 100 000 de plus que l'année dernière.
Le directeur de l'Office de tourisme annonce déjà des réservations en hausse pour l'hiver prochain. La station ferme dimanche, mais ce sera encore possible de skier tout en haut sur les quelques pistes du glacier.